Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Conquérir le monde, c'est aussi conquérir l'espace. Donald Trump a annoncé la création d'une force militaire spatiale, une sixième branche de l'arsenal américain qui s'ajouterait donc à celle déjà existante, l'armée de l'air, l'armée de terre, la marine, le corps des marines et les gardes-côtes. Hier, face à cette annonce, la Russie a fait part de son inquiétude. Bonjour Xavier Pascaud.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous êtes spécialiste de la politique spatiale américaine. Alors en quoi l'espace constitue-t-il une menace au point de vouloir créer donc une force spatiale spéciale, comme l'a annoncé Donald Trump?
Alors d'abord, pour les États-Unis, depuis plusieurs années, ils ont le sentiment que l'espace est d'abord une vulnérabilité, c'est-à-dire que c'est une menace si on touche à leurs satellites, puisque c'est sans doute le seul pays au monde qui soit dépendant à ce point des systèmes spatiaux. Donc il y a cette idée qui est là depuis une quinzaine d'années.
Pourquoi cette dépendance?
Alors parce que les États-Unis ont toujours misé sur la technologie, finalement, sur les moyens qui leur permettent de projeter leur puissance vers l'extérieur et finalement de remplir leurs projets politiques et stratégiques. Et l'espace est un bon moyen de faire la différence avec les autres. C'est un moyen où vous pouvez technologiquement puissant, financièrement puissant, même politiquement normatif. Donc finalement, c'est un bon vecteur de puissance.
Ce qui signifie qu'aujourd'hui, l'espace, c'est d'abord défendre donc le réseau de satellites américains.
C'est d'abord ça. Et finalement, les États-Unis se sont convaincus que s'ils pouvaient intervenir militairement à peu près partout sur le monde, sur la planète, c'est aussi parce qu'ils ont ces moyens spatiaux. Et donc, ils se disent, ces moyens vont être ciblés. Et l'annonce qu'a faite Donald Trump il y a quelques jours, en fait, ne fait que parachever des réflexions qui sont en cours depuis une quinzaine d'années. Même si la création d'une armée spatiale, alors là, fait controverse, parce que le Pentagone, en particulier, pense un peu différemment.
Pourquoi ?
Eh bien, parce que l'espace, au contraire, est quelque chose qu'on veut aux États-Unis dans le système américain, plutôt diffuser. On veut irriguer, finalement, l'ensemble des systèmes avec l'espace. Et on craint que si on crée une armée spatiale un peu isolée des autres, eh bien, on retourne à une conception de l'espace qui soit un petit peu insulaire, finalement.
Mais alors, l'espace n'est-il pas une no-war zone, un lieu donc pacifique où il n'y a pas véritablement d'armée, mais qui d'ailleurs pourrait aller frapper les satellites américains?
Alors, vous avez raison, l'espace, c'est d'abord un milieu hostile, difficile à habiter, je dirais. Et donc, cette idée d'avoir une armée spatiale qui manœuvrerait, bon, tout ça est un petit peu, évidemment, exagéré. Et puis surtout, l'espace était sanctuarisé pendant la guerre froide parce que c'était un moyen pour chacune des deux superpuissances de s'observer. Et on avait fait le calcul que si on commençait à casser les satellites des uns et des autres, tout ça n'était bon ni pour les uns ni pour les autres. Le changement qu'il y a eu il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, c'est qu'on utilise de plus en plus, aux États-Unis, alors il y a deux planètes dans l'espace. Il y a la planète américaine et le reste du monde. Aux États-Unis, on s'est mis à utiliser l'espace pour mener des combats au sol, pour aider les soldats, etc. Et à partir de là, on s'est convaincu que ces satellites deviendraient des cibles. Et donc, on a l'idée aux États-Unis de protéger ces cibles et donc de développer des systèmes spatiaux un peu offensifs, défensifs, dit-on, mais un petit peu offensifs parfois.
La Russie aurait-elle les moyens, par exemple, de frapper les satellites américains? Qui d'autre aurait ces moyens?
Bon, Xavier Pascaud. Très clairement, pour l'administration Trump, il y a deux pays qui sont ciblés, c'est la Russie et la Chine, qui ont fait quelques mouvements de satellites ces dernières années. À vrai dire, les Américains en font aussi de très nombreux. Et donc, on a cette espèce de rhétorique. C'est très symbolique, c'est hautement politique. Je pense qu'il y a plus de conséquences politiques, on va dire symboliques, pour Donald Trump de prendre ce type de décision, qui doit encore passer par le Congrès quand même, que finalement des conséquences vraiment stratégiques.
Alors, en imaginant que le Congrès accepte cette proposition de Donald Trump, Xavier Pascaud, qu'est-ce qui pourrait se passer? En quoi pourrait consister une armée de l'espace? On a des représentations, mais elles ne sont pas forcément...
Oui, non, c'est simplement une réorganisation de quelque chose qui existe déjà. Il y a beaucoup de dépenses militaires aux États-Unis dans le domaine spatial. Aujourd'hui, c'est, je dirais, concentré, coordonné par l'armée de l'air. Donc, c'est simplement l'idée, et on voit bien l'idée de Trump derrière, c'est de donner à ses électeurs, finalement, le sentiment qu'il crée quelque chose de très actif, de très offensif, qui projette les États-Unis dans un nouveau monde. En réalité, c'est juste un transfert de compétences. Ça désorganiserait sans doute pas mal quand même le système, ce qui conduit à de nombreuses critiques, mais parce que c'est un système très compliqué, l'espace militaire aux États-Unis, et de concentrer ça dans une nouvelle force qu'on construit de from scratch, diraient les Américains, à partir de zéro, ce serait sans doute un coup très fort en termes de réorganisation.
Évidemment, ça nous rappelle aussi la guerre des étoiles qui avait été lancée par Ronald Reagan. Peut-être il faut en rappeler, Xavier Pascaud, le but et les conséquences qu'elle avait eues, conséquences délibérées ou pas, ça c'est à vous de nous le dire.
Oui, oui. La guerre des étoiles, c'était, dans le cadre de la guerre froide, l'idée de se protéger une fois pour toutes de la menace, contre la menace soviétique de missiles intercontinentaux, en les détruisant, et donc en sortant de cette dialectique de la dissuasion mutuelle, finalement. Alors, cette guerre des étoiles, elle n'a pas eu les conséquences qu'on a voulu lancer quand on a démarré ce programme. Techniquement, c'était très compliqué. Par contre, ça a eu quand même un effet très fort de mobilisation, de recherche, de grands programmes de recherche, de développement qui aujourd'hui aboutissent à des choses très diverses. Hein, je dirais d'une certaine manière, l'internet, l'électronique et tout ça vient aussi de ces grands investissements militaires. Et puis il y a eu, dit-on, l'effet de l'érosion du pouvoir soviétique qui s'est vu un petit peu dépassé. Je pense qu'il faut relativiser un tout petit peu ça. Les soviétiques étaient bien placés pour savoir que certaines des technologies ne marcheraient pas. Par contre, ça a sans doute aidé la nouvelle génération de dirigeants, Gorbatchev à l'époque, à évincer un petit peu les anciens.
Est-ce que ça pourrait fonctionner de la même manière ? Est-ce que le fait de lancer une guerre des étoiles pour Donald Trump pourrait aboutir là aussi à creuser l'écart avec les nations qui sont aujourd'hui susceptibles de concurrencer les États-Unis?
Donald Trump, comme ses prédécesseurs, a ce projet de toute façon de se servir de l'espace comme un moyen, comme un levier de puissance. Ça, c'est très clair. On n'est pas tout à fait avec cette armée spatiale la même dimension qu'avec la guerre des étoiles qu'avait lancé Reagan, qui était un vrai problème technologique. Là, la technologie, elle existe par ailleurs. Il y a beaucoup d'investissements militaires américains qui se font dans les systèmes spatiaux. Et donc, ça ne changera pas grand-chose, si vous voulez. On est surtout sur une rhétorique, je dirais, de domination politique et d'affirmation, je dirais presque à vocation interne pour Donald Trump, pour convaincre son électorat de base, eh bien, qu'il est un président qui met l'Amérique devant tous les autres pays.
Bon, la rhétorique, c'est bien gentil, mais il va falloir payer aussi tout cela. Quelle va être la somme qu'il faudrait investir ou que l'armée américaine devrait investir pour se lancer dans une guerre des étoiles, Xavier Pascaux?
Alors, à nouveau, les Space Force, c'est surtout une réorganisation. Ça n'induirait sans doute pas beaucoup d'investissements budgétaires nouveaux. En revanche, d'ores et déjà, les États-Unis investissent massivement dans les passes militaires par an. On parle de 12 milliards pour les programmes accessibles.
Et sur un budget global de...
Sur un budget global. En gros, la dépense spatiale aux États-Unis, civils et militaires confondus, c'est entre 30 et 40 milliards de dollars par an, ce qui est considérable.
Et la dépense militaire.
Et la dépense globale. Militaire, on est à peu près à 700 milliards de dollars, dépense militaire globale.
Donc ça reste quand même marginal.
Oui, mais c'est quand même important pour les systèmes spatiaux, parce qu'aucun autre pays ne le fait à ce point, ni la Chine d'ailleurs, ni la Russie.
Et la France?
Alors, la France a son programme spatial militaire, beaucoup plus modeste, est un acteur important, en ce sens, au niveau politique, qu'elle a accès à des informations qui lui sont propres et qui sont garanties par le fait qu'elle détient ces systèmes. Mais aujourd'hui, de plus en plus, les militaires, qu'ils soient américains, français ou autres, utilisent des systèmes civils de plus en plus performants. Et donc, on voit bien que là encore, on se réorganise finalement un secteur d'activité qui est marqué par des progrès technologiques très importants.
Merci Xavier Pascaux. Je rappelle que vous êtes directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous avez notamment publié Le Nouvel Âge Spatial de la Guerre Froide au New Space aux éditions du CNRS.